chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
Salut, bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Info Culture, un mercredi sur deux, sur Radio G. Salut Pablo.
Salut Seb.
Salut Romain.
Salut Seb et salut à tous les auditeurs.
Eh ouais, salut Romain.
De quoi on va parler ce soir?
Alors ce soir, une émission spéciale série.
Série.
Voilà, il y a 15 jours, donc on avait fait une émission spéciale cinéma, rentrée cinéma, et puis ouais. Film des vacances. Et là, on parle série, parce qu'il y a pas mal de séries, il y a eu pas mal de séries, de saisons qui sont arrivées là, et je pense qu'on pourra en annoncer d'autres. Ou, voilà,
alors, de quelle série on va parler ce soir, les gars?
Ah, alors, Romain, tu...
Eh bien, moi je vais évoquer, si vous voulez bien, Peaky Blinders. Alors, vous m'excusez l'accent, bien sûr, mais
en très
tout
bon
cas,
accent.
Merci. Non, mais en tout cas, l'idée, c'est de l'évoquer avec une première partie qui sera, évidemment, on fera attention à ne pas divulgâcher, et il y aura une deuxième partie. On va évoquer, évidemment, la dernière saison. Et là, on préviendra pour ceux qui voudraient un tout petit peu s'absenter le temps qu'on l'évoque. Et une deuxième série qui est une série coup de cœur que j'ai vue cet été, qui s'appelle Afterlife.
Pablo, et toi?
Alors moi, il y aura une série, une ancienne série qui s'appelle The Killing, qui est devenue une série un peu classique aussi, une série danoise. Donc du coup, je vais parler des trois saisons d'une façon générale, même si j'accentuerai un petit peu plus sur la troisième. Et puis The Handmaid's Tale, La Servante Écarlate. Donc, alors surtout, je vais évoquer en général les quatre saisons, les cinq saisons, puisque la cinquième est en train de sortir. Mais il y a un moment, divulgachage, donc là, je serai sur la quatrième saison, et donc voilà, je préviens.
Vous avez compris qu'on est très prudent, qu'on ne veut pas divulgacher, attention, donc on lancera des alertes régulièrement. Moi, je vous parlais de Better Call Saul, peut-être d'autres séries si on a le temps. On fait un grand coucou à Seb, qui est chez lui à cause du Covid, et qui devait nous parler quand même de House of the Dragons et des Anneaux de Pouvoir, donc ce sera pour la prochaine fois.
Mais ouais, clairement. Voilà. Donc
on l'embrasse, on lui souhaite un prompt rétablissement.
Ouais.
Et on démarre l'émission avec une demande d'une auditrice, c'est Grand Corps Malade, Ben Mazué, Gaël Faye, et ça s'appelle Tailler la route.
Excellent.
Dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
Merci Anaïs.
101.5.
101.5, la radio qui fait le poids.
Entre deux gros concerts, entre deux courants d'air, entre ceux qui disent oui, qui disent non, j'ai fait l'inventaire. Si rester c'est l'enfer, si partir c'est dans l'air, est-ce que je dois secouer 40 années de ma vie de sédentaire? Et pourquoi je quitterai la vue que j'ai depuis ma terrasse? Elle est très bien ma vue, il est très bien mon quartier. Et pourquoi je quitterai mes potes et mon voisin d'en face? C'est ici que je suis moi-même et serein et entier. Et pourtant ça me tente, et pourtant ça me chante, et pourtant ça rentre pas dans mon schéma et c'est ça qui se tente. Et pourtant je le sens, je le crains, je le fuis et je le veux. Tailler un peu la route avant d'être vieux. Comprendre les couleurs et les douceurs des lointaines chaleurs. Apprendre les lumières lunaires des cités étrangères. Voir avec bonheur comment les enfants dansent ailleurs. Me fabriquer d'autres repères pour quand je ferme les paupières.
Ils ne savent pas que je mords, que ma vie sent le soufre. Je passe en météore, comme on passera tous. Je suis fait de pierre granit, mais d'un cœur grenadine. Quand t'effriteras ton shit, moi je taillerai ma mine. Ouais, je taillerai la route. Ici j'ai plus d'attache, j'irai me planquer dans la soute. Si pour moi y a plus la place, qu'ils aillent gratter leur croûte. Cette bande de fils de lâches, obsédés par leur souche. Moi je suis amoureux du large. Je veux faire des milliers de miles, me languir de mille romans, m'arrimer au rythme, l'enlire en moi la calme, mes deux milliers de mots, admirer le monde, la lune, l'onde de la mer, au loin la lumière de l'aube sur l'eau, en naviguant d'île en îlot, éviter les vagues et livrer combat à l'hydre du mal, et j'ai vidé les larmes de longue date, j'habite le large, satisfait fait de l'or, des jours qui passent pour raviver l'âme, marcher le feu dans la lanterne jusqu'à la libella. Je vais mettre seul par
partir à la pêche, même si je pêche pas. Partir à la fraîche, moi j'ai la parole sèche, comme mon apparence triche. Je fais pas très bien semblant, quand mon apparence flanche. Je prends pas souvent sur moi, je prends trop souvent sur ceux qui m'entourent et qui m'aiment, et pour qu'ils se ressourcent de mes tristes rengaines. Régulièrement je me retire, je pars où je peux dire rien si je veux. Régulièrement je me retire, désolé mais sans rire, je te dirai jamais, viens si tu veux. Ça veut dire que je t'aime, mais que je me connais. Passer la quarantaine, je vais pas beaucoup changer, je vais quitter la mission, la mission, la mission. Et quand je reviendrai, la mission, la mission, la mission, c'est que j'aurai voyagé.
C'était Tailler la route. Merci Anaïs pour cette proposition. C'était sympa. Grand Corps Malade, Ben Mazoué, Gaël Faye dans Bande Geek Mafia. Quel alors, bon. Tout de suite, la suite. Creature Shock Radio FM. Alors Romain, tu vas nous parler d'Afterlife.
Tout à fait, tout à fait. Série qui est sortie en 2019 et qui s'est terminée en 2022. Alors c'est une série, il faut le savoir, qui est écrite, réalisée et dans laquelle joue Ricky Gervais. Ouais. Que vous connaissez sans doute, j'imagine.
Ricky oui, Gervais, moi je connais bien Gervais.
Voilà, c'est aussi
et moi Ricky.
Voilà, écoutez, ça n'est pas la fusion des deux. Ah Ricky bon Gervais, vous le connaissez sans doute parce que vous connaissez, je l'imagine, The Office avec Steve Carell. Et il y a eu avant ça un The Office qui était anglais avant d'avoir un The Office américain.
Exact.
Et c'est donc le créateur de cette série. C'est aussi un humoriste, sniper qui fait du stand-up. Il a notamment présenté les Golden Globes à plusieurs reprises. Et voilà, il est connu pour ça, pour son humour un petit peu acerbe parfois. Hein, il ose un peu tout. Voilà, il n'a pas peur de choquer. Justement, il est un peu poil à gratter comme ça.
D'accord. Et est-ce que tu veux qu'on écoute la bande-annonce ?
J'aimerais beaucoup.
Allez, c'est parti.
Allez,
c'est parti.
Là, et ça ne doit pas durer ni devenir une obsession. Tu dois réagir.
Comment allez-vous ? Une bonne journée, c'est quand j'ai pas envie de flinguer des innocents au hasard dans la rue et de retourner l'arme contre moi. Mal alors.
Je vais te laisser un petit kit de survie pour t'en sortir sans moi.
Tu es adorable, mais tu sais rien faire, c'est vrai aussi.
Reste actif. C'est une catastrophe de picoler quand on est un glandeur qui s'apitoie sur son sort.
Pédophile !
Quoi ?
Pédophile !
Je suis pas un pédophile. Et si j'en étais un, tu risquerais rien, espèce.
Tu sais à quel point t'es râleur quand les choses vont pas comme tu veux. Mais t'as un grand cœur. T'y peux rien, je sais que t'es né comme ça, mais t'es honnête.
Voici Sandy, je voudrais que tu lui expliques comment ça fonctionne.
L'humanité est un fléau. Nous sommes des parasites dégueulasses, narcissiques, et le monde irait bien mieux sans nous. C'est de ça dont tu voulais que je parle.
Du tout.
Comment va Lisa ?
Oh, Seigneur Dieu, elle est morte, tu le sais.
Amène Lisa à la prochaine fois.
Oh, Seigneur Dieu.
Je refuse que tu continues à faire vivre un enfer à tout le monde.
Toi, tu devrais.
Votre chien doit être en laisse.
Ah oui, 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 je suis désolé, merci beaucoup. Hein.
Quoi ?
Oh non, c'est pas un très gros c*** qui nous casse les c***. Je suis vraiment désolé.
C'est honteux.
J'aurai les c*** de dire et de faire tout ce que je veux. Et quand je serai allé trop loin, alors j'irai retrouver Lisa. C'est un genre de super pouvoir.
Tu serais le pire super-héros que le monde ait jamais connu. Moi, à ta place, je me noierais dans le boulot. Tous les journalistes le font.
On bosse tous sur un journal gratuit dont tout le monde se fout.
Non, ça c'est faux.
Alors Romain, cette série...
Oui, alors je pense que la bande-annonce donne tout à fait le ton de la série.
Ouais, ça a l'air sympa.
Oui, alors
sympa, je sais pas.
Sympa. Alors,
je pense que ça a l'air décalé.
C'est décalé. Alors c'est anglais, hein. C'est sans grande surprise. Et puis ça fait écho à un film dont tu nous as parlé, Pablo, lors de la dernière émission, où tu nous parlais de comment surmonter un deuil. Et bien comme vous l'avez entendu dans la bande-annonce, la série tourne autour de ça. C'est-à-dire c'est un homme qui, bon, je ne divulgage pas. Hein, c'est dans la bande-annonce. Et puis de toute façon façon, la série commence comme ça.
Oui, c'était le film After Young.
Exactement. Et là, double clin d'œil, puisque c'est Afterlife, pour le coup, le titre de cette série. Et donc, cet homme perd sa femme. Et sa femme, finalement, elle est, même s'il l'a perdue, elle reste très présente dans sa vie, puisqu'il ne surmonte pas ce deuil. Enfin, pour lui, c'est trop difficile. Et alors, il y a tous les gens ont des réactions, évidemment, ont des réactions différentes par rapport au deuil. La sienne, c'est de devenir une sorte de mort vivant, en quelque sorte, puisque il se refuse tout plaisir, il se refuse de passer à autre chose, ou en tout cas d'essayer même. Il n'attend qu'une chose finalement, lui-même, c'est de trouver le courage de se suicider. Et du coup, partant de ce principe-là, de ce postulat-là, finalement, il va découvrir une sorte, en quelque sorte, de super pouvoir qui est, de toute façon, puisque demain je ne serai peut-être plus là, autant que je me permette tout. Et donc, évidemment, il se lâche, il dit à tout le monde ce qu'il pense sans filtre, fait de lui c'est assez drôle, mais c'est complètement cynique aussi. Et puis, ça donne des scènes assez cocasses tout de même, il faut bien le dire. On suit donc ce personnage, personnage auquel on s'attache, bien sûr, puisque mine de rien, on a de l'empathie, qui nous agace parfois aussi, qu'on déteste aussi parfois, pour plusieurs raisons. C'est que on lui pardonne beaucoup de choses parce qu'il a un deuil à surmonter, ce qui n'est pas facile. Néanmoins, le côté extrêmement renfermé sur lui-même, j'essaie de pas trop divulgâcher, fait que il devient extrêmement égoïste finalement. Son super pouvoir, c'est certes bien sympathique et ça nous fait rire sur certains aspects, néanmoins il est assez exécrable avec le monde entier. Peut-être le seul être, pas humain justement, qu'il épargne, c'est sa chienne Brandy, avec lequel il a encore un peu d'humanité. Mais voilà, on le suit, et j'ai envie de dire que à travers ses actes, il nous interroge. Enfin, ça nous interroge nous-mêmes en tant que spectateurs, puisque à l'image, pour faire un parallèle avec une série que vous connaissez, je crois que vous avez apprécié, de Breaking Bad, vous rappelez que Walter White, il a beau commettre des choses qui sont assez horribles, mais néanmoins, ça nous interroge comme spectateurs, puisque on s'attache à lui malgré tout. Ouais, on lui pardonne, on passe par pas mal d'émotions, et c'est le cas de cette série. Cette série, elle nous choque, elle nous trouble. Elle nous fait pleurer parfois, elle nous fait réfléchir en tout cas, à mon sens. Et puis c'est intéressant aussi de se demander finalement qu'est-ce que moi j'aurais fait à sa place, ou non seulement comme personne qui a subi ce deuil, et comment je ferais finalement pour le surmonter, et comment je ferais aussi si j'avais dans mon entourage quelqu'un qui adoptait cette posture-là. Comment je ferais pour supporter tous ces écarts? Est-ce que j'aurais la patience de tous les personnages qui gravitent autour de lui? Tout ça, c'est hyper intéressant. Et j'avoue que il y a beaucoup de c'est très décalé. Il y a aussi beaucoup d'autres personnages. Vous me l'avez dit en préambule, c'est de l'humour anglais, donc tout à fait décalé.
C'est de l'humour noir.
C'est de l'humour noir, effectivement. Mais alors vous n'aurez pas les bips dans la série que vous avez vu dans la bande annonce. Voilà. Mais c'est hyper agréable à suivre. C'est pas très long finalement, puisqu'il n'y a que trois saisons.
Trois saisons.
De 6 épisodes, donc 10. Oui, c'est ça. 18. Et au final, c'est des épisodes qui durent entre 25 et 30 minutes pour le format. Donc voilà, c'est une série que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Je vous la recommande vivement, tout simplement.
Afterlife.
Ouais.
Afterlife avec Ricky Gervais, ça fait envie, Romain.
Ouais, et puis c'est marrant ce que tu décrivais, en décrivant le personnage principal, ça me fait vraiment penser à la saison 1 de True Detective, où t'as un personnage aussi comme ça, hyper pessimiste, qui est toujours à deux doigts de se suicider, qui est d'un cynisme effrayant, interprété du coup par Matthew McConaughey.
Ah oui.
Qui est excellent. Et vraiment en pur. Enfin, c'est le philo qui parle, en pur schopenhauerien. Puisque lui aussi.
Il est pessimiste, ça veut dire qu'il est pessimiste.
Ouais, voilà. Schopenhauer aussi, il avait un chien. Et c'était à peu près, je dirais, la seule trace d'humanité qu'il accordait, c'était à son petit chien. Quoi.
Absolument, tu vois, c'est tout à fait le cas de ce personnage qui nous interroge aussi sur notre éthique. Hein. Même nous, comme spectateurs, ça brise, entre guillemets, le quatrième mur. C'est qu'on se demande, mais nous, en fait, ça nous interroge aussi sur nous-mêmes, sur notre rapport à la vie. Parce que la mort est omniprésente, comme d'ailleurs le personnage de sa femme, je ne divulgage pas une nouvelle fois, mais vous l'avez entendu au début de la vidéo, à l'image de la série, on la voit souvent en début de vidéo, parce qu'il a beaucoup d'enregistrements de sa femme quand elle est malade, voire quand elle est en vie, et elle nous accompagne tout le long de la série, en fait, tout simplement. Donc voilà, moi je vous la recommande vivement.
Merci. Super, Romain.
Merci beaucoup, Romain.
On va écouter un peu de musique.
Ouais, qu'est-ce
avant
que tu
de
vas
passer
nous proposer
à la série suivante.
Qu'as-tu dans ton panier?
Oh là là, j'ai plein de choses. Eh hey, tiens, on pourrait s'écouter un petit Orelsan, ça va?
Allez,
super. C'est parti. Quentin Morgan.
Vous êtes bien sur Radio G, 101.5.
La radio qui fait le point.
T'as jamais eu aucun goût, c'est pas le Covid. Nique ta mère, nique ton luxe et tes placements de produits. T'es pas stylé, t'es qu'un suceur d'algorithme. Tu seras jamais heureux parce que t'es maudit. Lifestyle de connard, vendeur de fausse gloire, trader en costard. Leur rêve c'est mon cauchemar, génération burnout. Sous pression, courir après des chimères de perfection. Bousillé comme Amy, bousillé comme Britney. Confond pas réussite, gloire, bonheur et succès. Tu sais ce que veulent les riches, tout ce qu'ils peuvent pas avoir. Avant d'être riche, tu peux pas le croire. Je connais plein de stars, c'est des merdes. Si tu les croises, ça briserait tes rêves. Si tu les croises, ils vont t'humilier. Ils t'éteindront pour mieux briller. J'essaie pas de faire le réa quand ils réseau. Je veux juste dire, oublie jamais que c'est faux. Des gens sont payés pour te baiser le cerveau. Que la vie paraît fade quand tu vois le meilleur des autres. Ils ont rien d'autre à foutre qu'être beau. Te compare pas, refuse la dictature des beaufs. Ils explosent dès qu'ils se prennent pour quelque chose. Noyés dans leur ego. Rêve, mieux. Mieux que l'argent, mieux que le pouvoir, mieux que les deux. Rêve d'être heureuse. Rêve, mieux. Mieux que l'argent, mieux que le pouvoir, mieux que les deux. Rêve d'être heureux. On leur met des étoiles dans les yeux. On leur met des étoiles, on leur met des étoiles. Aveuglés par des étoiles dans les yeux. On nous met des étoiles, on nous met des étoiles. Depuis quand tout est tellement sérieux? T'as de la chance d'être bien pensant, j'suis un haineux. En vrai, je suis pressé que tu me cancelles. Ta tolérance est juste une autre façon de se mettre en scène. Chasseur de sorcières, gratteur de sales boss, menteur faux prophète, vendeur de bonnes mœurs. Tellement content de pouvoir juger. Lancer des braises sur le bûcher. Agir au nom du bien, empêche pas de faire le mal. Faire semblant d'être humain, c'est la technique du diable. C'est juste au nom du bien que les tyrans prennent le pouvoir. Rien justifie d'être un bâtard. T'as des convictions depuis deux semaines. C'est juste un prétexte pour lâcher ta haine. T'essayes d'être pertinent parce que t'es bête. C'est juste un moyen d'imposer tes règles. C'est sympa de vouloir jouer les héros. Mais t'es bon qu'à dénoncer les autres. Le savoir est une arme, c'est bien. Tu peux tuer si tu maîtrises rien. Rêve, mieux. Mieux que l'argent, mieux que le pouvoir.
Tout de suite, Pablo nous propose une chronique sur la servante écarlate. Mais ce sera juste après un petit jingle.
Creature Shock Radio FM. Alors, La Servante Écarlate ou The Handmaid's Tale. Alors là, moi je vais vous parler des... Alors, on est dans 5 saisons. La saison 5 est en train de sortir actuellement sur HBO. OCS, hein, du coup. Donc c'est une série très esthétique sur le plan de la photographie, oppressante mais profondément féministe. Une saison 4, donc, dont je vais surtout vous parler en grande partie, où les femmes prennent leur revanche. Et une saison 5 qui sort actuellement. The Handmaid's Tale, La Servante Écarlate, est une série télévisée américaine créée par Bruce Miller, diffusée simultanément depuis 2017 sur la plateforme de vidéo Hulu aux États-Unis, actuellement sur OCS. Elle est l'adaptation du roman La Servante Écarlate, écrit par Margaret Atwood en 1985. Synopsis. La série La Servante Écarlate est une dystopie qui figure un monde totalitaire aux mains d'extrémistes religieux. À une époque où la stérilité semble être devenue la règle, l'État exerce un contrôle absolu sur la procréation et les femmes en état de procréer. Les Fils de Jacob, une secte politico-religieuse protestante et fondamentaliste, en a profité pour prendre le pouvoir, créer la République de Gilead en détruisant la Maison Blanche, la Cour suprême et le Congrès. Allez hop, tout à la fois là. Bref, un coup d'État. Une partie des citoyens américains survivants ayant échappé à l'emprisonnement se sont réfugiés au Canada et un gouvernement d'exil a été formé à Anchorage. Les femmes ont été déchues de leur statut de citoyenne à part entière. Elles ne peuvent ni travailler, ni posséder d'argent, ni être propriétaires, ni lire, ni écrire. Voilà, c'est complet. Elles sont toutes placées sous une surveillance quasi permanente. Elles sont d'autre part catégorisées et hiérarchisées selon leurs fonctions, entre guillemets. Les femmes sont entièrement asservies. Parmi elles, on distingue notamment les femmes des dirigeants, les épouses, qui sont vêtues de bleu ou de vert, qui dominent le foyer. Les Marthas, vêtues en gris, qui entretiennent la maison. Et puis les servantes, vêtues de rouge écarlate, destinées à être fécondées par les dirigeants en vue de leur offrir un enfant ou d'offrir un enfant au foyer. Le ventre des servantes n'est donc qu'un moyen au service des familles à qui elles remettent leur bébé dès leur naissance. Les servantes sont affectées à des couples de la caste dirigeante et sont violées chaque mois rituellement par le mari, en collaboration avec l'épouse, au cours de la cérémonie, pareil entre guillemets, jusqu'à ce qu'elle soit enceinte et mette au monde l'enfant. Voilà. La série suit le parcours de June Osborne, une femme enlevée lors du coup d'État, devenue servante sous le nom de Defred, car au service du commandant Defred, Fred Waterford, puis de Joseph, au service de Joseph Lawrence. Sa fille Anna lui a été arrachée par le nouveau régime, mais son mari a pu fuir et se réfugier au Canada. Bon, avant toute chose, fin du synopsis. Avant toute chose, en fait, on peut dire que c'est une série très esthétique, à l'esthétique soignée et raffinée. Comme vous en doutez, les couleurs y sont vives et contrastent avec la grisaille de Gilead, la blancheur de la neige ou la noirceur de l'intrigue. La photographie, me rappelle souvent en fait des tableaux de l'école flamande, des Van Eyck ou des Vermeer. Les servantes sont souvent filmées en plongée totale, plan vertical, comme pour signaler en fait, ou souligner plutôt leur écrasement dans l'enfer de Gilead. En réfléchissant au rôle idéologique de la religion sur l'État et à celui de ce dernier dans la procréation, la série interroge la facilité avec laquelle un État peut sombrer dans une organisation totalitaire, opprimant même ceux qui ont contribué à le fonder. Comme si la logique de l'organisation du pouvoir échappait aux individus, comme si le pouvoir avait une vie autonome. Peut-on décider à la place des individus de leur manière de procréer au nom de la survie de l'espèce? Jusqu'où résister à l'oppression de l'État? Que faut-il faire quand l'État se révèle être injuste? Se soumettre à sa puissance terrorisante ou résister? Et comment résister alors durablement? Comment résister et survivre dans un tel enfer? Donc cette théocratie met à mal ces sujets, ainsi que nous, spectateurs, qui regardons par la même occasion, nous sentons souvent oppressés, indignés, révoltés, sidérés par la violence et l'humiliation qu'elle leur inflige. Je dirais en somme que les trois premières saisons nous font souvent cruellement souffrir. Tant nous sommes en empathie avec June et ses compagnes d'enfantine. Mais à la fin de la saison 3, le réseau Mayday a remporté une grande victoire. Donc là, attention, léger divulgachage, d'accord? On a June qui va passer à l'offensive à partir de la saison 4. Elle rend coup pour coup à ses anciens bourreaux. Elle est de moins en moins seule et isolée et de plus en plus forte, déterminée à retrouver sa fille Anna enlevée et rester dans une famille à Gilead. June est aussi déterminée à se faire justice. Certes, la colère trop longtemps frustrée et la vengeance trouveront à s'exprimer, mais au-delà, June vise la justice comme un apaisement supérieur. Bon, rapidement, si j'ai un petit bémol sur critique ou une légère réticence sur la série, c'est de se complaire parfois dans le dolorisme et d'efforts trop durés les moments d'humiliation et de torture, à tel point que des scènes deviennent difficiles à supporter. Heureusement, effectivement, il y a quand même des moments de révolte et de retournement qui font quand même du bien. La plupart des personnages sont bien approfondis, sauf un qui me semble fort maltraité, donc je le signale, c'est Nick Blaine, interprété par Max Minghella, l'amant de June Osborne. Je trouve qu'il est un peu, voilà, il est négligé. June est l'actrice, enfin, Elizabeth Moss est souvent filmée de très près, en très gros plan, comme pour capter la moindre de ses variations d'émotion, et parfois nous montrer durablement son visage froid, dans son impassibilité de façade, hein, son blindage de résistante. C'est esthétique, subtil et efficace. Enfin, c'est une série résolument féministe qui parle crûment des violences faites aux femmes et de leur résistance, de leur émancipation. Et qui résonne étrangement actuellement, hein, on a eu l'invasion du Capitole, je vous rappelle, hein, que Seb, tu connais bien, hein, puisque tu l'as étudié.
C'est ça.
Et puis, et dernièrement, je vous rappelle que la Cour suprême des USA vient d'autoriser en fait les États à légiférer par eux-mêmes sur l'IVG. Certains ont déjà retiré ce droit fondamental des femmes à disposer librement de leur corps. Donc dans un monde où le patriarcat domine, qui entretient la violence, la culture du viol et la domination, la solidarité entre femmes reste une alternative humaine. Cette série nous rappelle ainsi que pour sortir de ce système politique et culturel, il va falloir du temps, donc certainement le temps d'une vie. Voilà. Bon, c'est reparti pour un tour. On a la saison 5 qui sort. Cette fois, on continue dans l'offensive. Et puis, c'est déjà annoncé, il y aura une saison 6 en 2023.
Est-ce que ce sera la dernière ?
A priori, c'est la dernière. Voilà, c'est lui. Donc, c'est La Servante Écarlate. Vraiment.
Et lisez le bouquin aussi, d'ailleurs.
Et lisez le bouquin, ouais.
Qui est très bien.
Ouais, tu l'as lu ? Top. Top, top, top.
Un petit peu de musique, écoutez ça.
Eh ben ouais.
Ça vous dit quelque chose ?
Oh yes.
Mais pourquoi ce choix, Pablo ?
Ah, Radiohead, c'est magnifique.
Bah oui.
On est tous fans ici.
Bah, c'est clair.
Et en plus, dans La Servante Écarlate,
il y a ce passage.
Voilà.
Qui s'appelle
Street Fury.
Street Fury.
Fade. Street Spirit.
Street Spirit.
Fade Out.
Fade Out. Merci. Et vous êtes bien. All these things I want to swallow
fan, alors on a le droit.
Ouais, c'est ça.
Tu
te lâches là, tu te lâches.
Mais non, mais tout le monde n'aime pas la voix de Thom Yorke. Voilà, c'est tout, faut le dire.
C'est difficile quand même.
Il va falloir qu'il s'habitue quand même parce que.
Parce qu'on va écouter The Smile.
Mais ne divulgâchons pas.
Non, voilà. Alors, un petit jingle et puis ensuite, bah, je vous parle de Better Call Saul. Creature Shock Radio FM. Alors, Better Call Saul, c'est quoi? C'est une série américaine créée par Vince Gilligan et Peter Gould, qui a commencé, il a été diffusé en 2015 et qui s'est terminé en août 2022. Alors, elle est diffusée.
6, c'est ça?
Hein?
Avec la saison 6.
Ah, Pablo, faut pas que tu. Si tu me coupes, je vais pas y arriver. Excuse-moi. Donc, c'est diffusé sur AMC. Aux États-Unis et au Canada, c'est la chaîne qui diffuse aussi The Walking Dead. Et donc c'est la série dérivée en fait de l'univers de Breaking Bad, qui est centrée sur la vie de Saul Goodman. Saul Goodman, c'est un avocat corrompu, c'est l'avocat corrompu de Walter White et de Jesse Pinkman. Voilà. Alors, c'est une série qui a été comme Breaking Bad saluée par la critique, notamment pour le jeu de son acteur principal, mais aussi pour ses personnages et sa cinématographie. Il y a beaucoup de critiques qui disent que c'est vraiment la série le digne successeur de Breaking Bad, hein, en fait, on peut dire ça. Okay. Et même certains, alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord, mais même certains l'ont jugé supérieur à son prédécesseur. Mmh. Voilà. Certains pensent que Better Call Saul c'est encore mieux que Breaking Bad.
D'accord.
Alors moi, pour avoir fini la série, je dirais pas ça quand même.
D'accord. Ouais, surtout qu'on est fan aussi de Breaking Bad ici.
Voilà.
Et c'est vrai que c'est difficile.
Alors même si, en fait, Better Call Saul, c'est de mieux en mieux. En fait, il y a 6 saisons.
D'accord.
Et au fur et à mesure, c'est de mieux en mieux. C'est terrible, quoi.
Mmh.
Alors, c'est diffusé sur Netflix, hein, en France. Et quel est le synopsis? Alors, c'est l'histoire de James McGill, qui est joué par Bob Odenkirk, qui s'appelle Jimmy, hein, tout le monde l'appelle Jimmy. C'est un ancien escroc, devenu avocat sous l'influence de son frère, Charles, dit Chuck, qui est lui-même un avocat renommé et un fondateur d'un grand cabinet, Hamlin et McGill. Donc, au sein de ce cabinet, travaille aussi une femme qui s'appelle Kim Wexler, qui est la compagne de Jimmy, qu'il a rencontrée du temps où il travaillait au service du courrier. Bon. Face aux difficultés qu'il a à faire décoller sa carrière en tant qu'avocat, mm-hmm. Jimmy, bah, il se résout à recourir à des méthodes proches de celles utilisées quand il était escroc, en fait. Voilà. Souvent, on l'appelait Sleeping Jimmy. Jimmy casse-gueule, hein, voilà. Parce qu'il avait il était dans des manigances, enfin, voilà. Et, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il entraîne de plus en plus Kim avec lui dans ses manigances au fil de la série. Ce qui va exacerber son conflit avec son frère, Chuck. Jusqu'à un point de non-retour que je ne peux pas raconter ici, parce que je ne veux pas divulgâcher. Alors, ça le mènera donc à s'associer avec le milieu criminel, et notamment avec celui du trafic de drogue. C'est très important dans l'histoire, puisque ça va le mettre en relation avec d'autres personnages présents, mentionnés dans Breaking Bad.
Ben oui.
Comme Mike, Ehrmantraut, joué par, génial, hein, par Jonathan Banks, Nacho Varga, Gus Fring et Lalo Salamanca.
D'accord.
Voilà.
Alors, est-ce que je peux poser une petite question?
Oui, vas-y, Pablo.
Pardon, désolé. Parce que,
je vais t'interrompre pendant ta chronique, tu vas voir, tu vas adorer.
Non, vas-y, continue. Je te la poserai après.
Ah ben, c'est trop tard.
Ah, d'accord. Non, je me demandais, puisque en fait, ces personnages interviennent ça, dans la chronologie de Breaking Bad, ça intervient en cours. En fait.
Non, c'est avant.
C'est avant.
C'est un préquel.
C'est un préquel.
Ouais, tout se passe avant que Jimmy, donc qui va prendre le pseudonyme de Saul Goodman, ne rencontre en fait Walter White et Jesse Pinkman. Donc au cours de la série, Jimmy, il endorse le pseudonyme de Saul Goodman, donc jeu de mots en anglais, puisque c'est It's Saul Goodman. Saul Goodman, Saul Goodman, voilà.
Tout à fait.
Bon, les événements évoluent jusqu'à se connecter, donc j'allais y arriver, à ceux narrés dans Breaking Bad, c'est-à-dire lors de sa rencontre avec Walter White et Jesse Pinkman. C'est-à-dire, à un moment donné, ça vient se recouper à la fin de la sixième saison. Donc, la plupart des épisodes sont assez étranges parce qu'ils proposent une introduction qui préfigure, en fait, le dénouement final. C'est-à-dire, postérieur à la série Breaking Bad. Alors attention, je m'explique.
Ouais,
c'est-à-dire que tous les épisodes de Saul Goodman, de Better Call Saul, se passent avant Breaking Bad, mm-hmm. mais on a des petites pastilles d'introduction qui nous montrent Saul Goodman plus âgé, avec une moustache, et on ne sait pas très bien à quelle époque ça se situe, et petit à petit on comprend que ça se situe après Breaking Bad.
D'accord,
voilà.
D'accord.
Donc là c'est en noir et blanc à ce moment-là, et ça devient prédominant à la fin de la série. Voilà. Alors les acteurs principaux ils sont assez géniaux, je les ai cités rapidement. Il y a des acteurs donc récurrents de Breaking Bad. Alors la série, on peut dire qu'elle est moins sombre et plus comique que Breaking Bad, voilà. Après, la tonalité, elle est quand même assez, comment dire, mitigée, enfin équilibrée, parce que finalement, il y a, au fur et à mesure que les personnages de Breaking Bad sont introduits dans le scénario, l'ambiance change un petit peu, voilà. Mm-hmm. Mais par contre, on retrouve alors le milieu criminel d'Albuquerque qu'on avait découvert dans Breaking Bad, on le redécouvre. Et puis l'évolution de... Ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que l'évolution du personnage de James McGill, il n'est pas aussi radical. Enfin, elle n'est pas aussi radicale, cette évolution, que celle de Walter White. Parce que Walter White, c'est vraiment le type bien qui devient un salaud, quoi. Mmh.
C'est plus nuancé, quoi.
Voilà. Là, c'est un personnage qui est d'abord un escroc, qui finalement essaye de devenir un mec bien, un avocat, voilà, mais qui n'y arrive pas.
Ouais.
Et donc, lui, il a une dimension tragique.
D'accord.
Voilà. Vous voyez, le tragique, c'est-à-dire qu'il essaye, mais il n'y arrive pas, en fait.
Ouais, tout à fait.
Voilà. Donc, ça se passe en 2002-2004, donc avant les événements de Breaking Bad. Et puis, quelques séquences, donc, après Breaking Bad. Ça, c'est assez étonnant. Il faut comprendre le dispositif. Puis après, c'est plutôt sympa. Mmh. Voilà. Donc, moi, je vous conseille vraiment, il y a 6 saisons de Better Call Saul. Si vous avez aimé Breaking Bad, bah ça va vous plaire. Surtout les personnages et puis l'ambiance, le contexte. Et puis surtout Bob Odenkirk qui joue Jimmy McGill, Saul Goodman, il est quand même extraordinaire, quoi. Il est génial. Voilà.
Il était déjà très, comment dire, très marquant dans Breaking Bad. C'est vrai que.
Mais là, c'est le personnage principal.
Et c'est ça, c'est qu'il avait, peu d'interventions hein, dans la série.
Oui, petit à petit, il prenait sa place.
Et tout d'un coup, mais voilà, on le sentait déjà gros potentiel.
Je dois dire que le premier épisode de la première saison de Better Call Saul a battu un record d'audience, en fait, pour une première, pour une série du câble. Il y a eu presque 7 millions de téléspectateurs. Avant, le record était détenu par Deadwood. Mm-hmm. Et donc, voilà, ça a beaucoup plu. Je comprends pourquoi. Alors, c'est vrai que sur 6 saisons, c'est un peu long. Voilà. C'est vrai qu'on peut. Il y a des passages, mais c'est comme pour toutes les séries.
Il y a des longueurs, forcément.
Voilà. Mais honnêtement, la dernière saison, elle est quand même excellente. Vraiment excellente.
Il y a un truc sur lequel je voudrais rebondir, si vous voulez bien. Je parle sous votre contrôle, bien sûr. Si ma mémoire est bonne, la stratégie qui consiste à mettre ou une image ou une petite scène en noir et blanc au début de l'épisode, c'était déjà le cas dans Breaking Bad, dans pas mal d'épisodes. Donc, ce serait une forme de clin d'œil par rapport entre les deux séries.
Mais il y a plein de clins d'œil.
D'accord.
Ouais. En fait, il y a plein d'objets dans le décor.
Absolument.
Il y a plein de lieux qu'on revoit, en fait, quand on a vu Breaking Bad. On se dit, ah, mais oui, dans Breaking Bad, il s'est passé ça, cet endroit-là. Enfin,
d'accord, oui, bien sûr.
Et on croise des personnages, et voilà, des objets, des musiques. Enfin, il y a plein de d'Easter egg.
Tout à fait.
D'œufs de Pâques, c'est-à-dire des petites choses cachées.
Oui, bien sûr.
Et c'est vraiment génial. Et même quelquefois, alors faut vraiment être un fan de Breaking Bad pour pouvoir comprendre certaines répliques, parce que ça fait référence à des choses qu'on a vues, etc. Donc il y a plein d'interactions.
Ouais, d'interactions.
D'intertextualité, comme on dit.
Ouais, excellent.
Voilà.
Eh ben merci, Seb.
Bah ouais, parce qu'il faut qu'on avance. Alors, un petit morceau de musique rapidement, peut-être. The Smile. Un bon geek.
Après Radiohead. The Smile.
101.5.
Fear not, my love.
moi j'ai un prompteur qui me donne les paroles.
Bah chante, on t'attend.
Ah mais c'est pas les... Ah si, and those piggy limbs, you said fuck. Throwing small change, take your dirty hands off my love.
Je ne vois pas la différence avec l'original, personne.
Moi non plus.
En tout cas, j'espère que vous avez... J'espère que vous avez aimé le genre, parce que honnêtement, si j'ai choisi ce morceau, c'est parce que ça fait penser au Rad... Alors c'est un side project, hein, c'est-à-dire que c'est un autre projet de Thom Yorke et du bassiste, me semble-t-il.
Non, du guitariste
pardon, autant pour moi. Qui ont eu déjà d'autres projets auparavant, mais celui-ci fait vraiment penser au tout début, au premier titre de Radiohead et à l'énergie qu'il y avait au départ avant que ça devienne, pour certains, un peu trop lent.
Expérimental.
Quoi. Ouais, disons ça comme ça.
C'est ça. Alors... On se met un petit générique et puis on te laisse parler tout de suite de la suite. C'est toi, Romain. Creature Shock Radio FL. Alors l'idée c'était de parler de Peaky Blinders, Romain.
Oui, alors je
pourquoi
Peaky
pas
Blinders. Oui, pourquoi pas, effectivement. Peaky Blinders, succès mondial que vous connaissez bien sûr, qui est sorti en 2013 et qui s'est terminé il y a peu, en avril 2022. Alors Peaky Blinders, c'est quoi? Eh bien, c'est une série qui retrace l'histoire d'une famille, la famille Shelby, qui est une famille irlando-rome. Et ça se passe en fait dans le Birmingham d'après-guerre, après Première Guerre mondiale en fait. Et on va suivre la trajectoire de cette famille, disons entre finalement la Première Guerre mondiale et avant la Deuxième, tout simplement. À suivre sa trajectoire à travers
entre deux guerres.
Alors c'est réalisé par Steve Knight, me semble-t-il, ou Steven, je vais vérifier ça parce que j'ai oublié mes notes.
Mais Steve c'est le diminutif de Steven.
Exactement. Exactement. Et donc ça se déroule sur 6 saisons. Alors les 5 premières saisons, j'ai envie de dire, bon, on va déjà, enfin, ce qui semble vraiment le plus évident dans cette série, c'est que c'est très bien écrit, simplement. Ce qui a fait le succès de cette série, il y a pas mal d'ingrédients qui mais il y a vraiment, on va dire, il y a un jeu d'acteurs qui est très très bon. Vous connaissez Cillian Murphy.
Oui.
Voilà. Et il y a aussi Polly, dont je vous mentionnerai le nom plus tard, mais il a regretté Polly puisque c'était un personnage central de cette série qui, bien malheureusement, sûr. Sans divulgâcher, parce que le début de série, disons qu'on l'a vu, et voilà, elle est décédée pendant la série.
Oh.
Et vous voyez, c'est ça. Ouais.
C'était Hélène McCrory.
Hélène McCrory, absolument. Et puis il y a aussi évidemment le frère. Enfin, disons que ce qui fait le succès de la série, c'est que c'est une série qui est vraiment badass, quoi. Clairement, ça envoie, absolument. Vraiment, c'est oui.
Non, mais Romain. Dis-moi. Romain, il dévoile tous les petits secrets de
Mince, mince.
Je te fais Justine pour te dire, est-ce que tu veux qu'on écoute un extrait?
J'adorerais ça. C'est pour ça que j'allais rebondir en disant, mais oui, tu veux bien volontiers. We are black. Climb down the step. It's the pleasure doing business with you.
Have a rise as business.
Effectivement, c'est violent.
Oui. Mais pas que. Ça passe avec un aspect gig, ça, c'est bon. Un bon délire.
J'adore l'accent de Birmingham.
Exactement. Choking on Billy King's boys.
Right? Right?
Et on va finir par une.
Oh là là.
Eh oui. Une phrase mythique. By order of the Peaky Blinders. Et ça se finit là-dessus. Exactement.
Alors, pour les fans de Fight Club,
c'est ça, mais pas que. Alors, ce qui fait le succès de la série, c'est ça justement, c'est que déjà, bon, on est habitué à voir des séries américaines, on est habitué à l'accent américain, parfois anglaise, mais là, c'est un accent irlandais à couper au couteau, vraiment
non,
très prononcé.
C'est l'accent de Birmingham, ça.
Oui, non, mais il y a aussi
l'accent irlandais. Il y a les mélanges.
Et du coup, c'est assez particulier, c'est sympathique. Il y a un soin. Alors, tu parlais tout à l'heure d'esthétique. Il y a un soin porté à l'esthétique, au plan. C'est extrêmement bien filmé.
Au costume.
Ouais. Les personnages sont assez charismatiques, très bien joué, vraiment ça a fait un succès énorme, à tel point qu'il y a eu un merchandising dingue avec cette série. On peut acheter aujourd'hui son whisky Peaky Blinders. Alors justement, je parlais de série badass, vraiment c'est sexe, drogue et rock'n'roll, très clairement, puisque on va suivre l'ascension donc de cette famille qui est extrêmement violente, comme vous avez pu l'entendre dans l'extrait. Et donc au début, pour se faire sa place dans ce Birmingham d'après-guerre, disons, c'est un petit peu une bataille de clans en quelque sorte. Donc eux subsistent par le biais de menus larcins, entre guillemets, en tout cas de crimes, et petit à petit petit, et on va suivre l'ascension de cette famille au fil des saisons. Alors, ce qui est assez intéressant dans la façon de faire, je sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, mais c'est fait finalement, je trouve la structure comme celle d'un jeu vidéo. C'est-à-dire que à chaque saison, en quelque sorte, vous avez l'ennemi de la saison, et puis on va suivre un petit peu comment la famille va se dépatouiller avec ce nouvel obstacle qui se dresse devant elle. Et puis, et finalement, à la fin, on arrive au boss final et on va, comment ça va se résoudre dans un feu d'artifice d'action. Vraiment, c'est fait. Alors, pêle-mêle, hein, ils vont affronter des Italiens. Il y avait d'ailleurs Adrian Brody qui jouait un excellent personnage.
Excellent,
ouais. Et puis, on a
Tom Hardy. Tom Hardy qui joue Alfie Salomon,
qui est un excellent personnage.
Bah, c'est un grand acteur.
Exactement. Exactement. Bah, ça fait partie de mes critiques sur la saison 6. Mais en tout cas, voilà, on les suit au fil de 5 saisons. Finalement, on arrive à la 5e saison. Saison durant laquelle ils vont commencer à affronter, on va dire, le gros morceau qui est la montée du fascisme. D'accord? Malheureusement, patatras, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a tous suivi cette série qu'on a adorée pour diverses raisons.
Faut pas tout dire.
Oui, bien sûr. Mais patatras, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a Monsieur Covid qui arrive au milieu de tout ça et qui nous a interrompu la série, bien sûr. En plus, on a la mort d'un des personnages. Voilà, je l'avais évoqué tout à l'heure.
C'est ça.
Ce qui fait qu'on a une forme. Ça a créé une certaine attente. On montait avec cette série. On était au climax presque. Et boum, on a un arrêt comme ça et on a eu, après une longue attente, la fin. Donc la saison 6. Et là, c'est très difficile de ne pas divulgâcher. Mais ça se termine on va dire, je ne sais pas, Pablo, toi qui l'as vu, je parle sous ton contrôle. Mais ça se termine, disons, j'ai envie de dire. Moi, ça m'a laissé un petit peu dubitatif, en tout cas.
Alors, est-ce qu'on est sûr que c'est la dernière saison?
Alors, j'y viendrai.
D'accord. Parce que moi, j'ai quand même.
Bien sûr.
On peut se demander, clairement, ils ont laissé. Ça peut se terminer là.
Tout à fait.
Comme ça peut repartir.
Alors, moi, je vais pas te mentir, j'étais chafouin à la fin de la saison parce que le principal reproche que j'ai à faire autour de la série, c'est que les personnages, on en a parlé précédemment, ils sont extrêmement charismatiques tout au long de la série et ils ont tous leur importance. Même les personnages un peu secondaires dont tu parlais, Seb, avec Tom Hardy, que je trouve exceptionnel, moi, en Salomon, en Alfie. Et en fait, dans cette dernière saison, bah justement, c'est extrêmement centré autour du personnage principal qui est brillamment joué par Cillian Murphy, ça lasse un peu d'être vraiment enfermé autour de ses troubles et ainsi de suite. On ne parle que de ça et ça étouffe un peu le reste des autres personnages et c'est assez lassant à mon sens. Et autre chose aussi, c'est vrai que ça évoque, il y a plein de pistes, il y a plein de choses qui sont non résolues à la fin de cette saison, autour justement de comment il va réussir à infiltrer le mal pour mieux le combattre avec la montée du fascisme. Et on se dit, mais bon sang, on nous laisse au milieu de tout ça, c'est très centré sur le personnage, c'est un peu décevant. Voire même, il y a un personnage aussi, sans trop divulgâcher, mais qu'on nous vend un petit peu dans la bande-annonce, dans le trailer au début, comme la bataille un petit peu épique, parce que c'était un ancien de la famille qui est censé trahir. Et ça fait ballon de baudruche qui se dégonfle. On se trouve c'est vraiment envoyé vite fait.
Je suis d'accord avec ta critique. C'est vrai que sur la saison 6, on peut dire que je trouve que Michael, il est pas bien traité.
Exactement.
Et je trouve que Elfie, c'est pareil. Il est sous-exploité.
Génial.
C'est-à-dire que c'est à double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté, moi, j'ai quand même l'impression que ils ont voulu à un moment montrer que un mafieux peut être aussi un homme très complexe. C'est-à-dire comme
tout à fait.
Tommy Shelby, clairement, c'est aussi quelqu'un qui est aussi beaucoup en méditation. On le voit, il y a des plans fixes sur ses yeux tout comme ça. On a l'impression qu'il est perché, il est loin.
Il est traumatisé suite à la Première Guerre mondiale.
Il y a ces traumatismes et puis aussi ces anticipations de l'action. C'est un stratège de dingue.
Absolument. Et puis on peut pas dire
un petit peu à la façon d'un Ragnar Lodbrok dans Vikings, si vous voulez. Parfois on sent que le gars il est en train de planifier des trucs comme un joueur d'échecs.
Exactement. Il a toujours un coup d'avance, absolument.
Voilà. Et donc en fait, mais on s'étend un peu, ça a le problème de ralentir l'action et clairement de laisser le côté, comme tu disais, un peu parfois, bon, ça nous ralentit quoi.
C'est ça, c'était un peu trop long.
Alors mon Seb.
Le retourne les gars.
Ah mince. Bon, tout ça pour dire juste, je finis juste sur ça, parce que quand même, si tu y faisais allusion, ce qui est le problème de cette série, c'est qu'on finit sur un sentiment d'inachevé, et pour cause, et tu l'as dit à juste titre, la série n'est pas finie. Alors je ne veux pas sucer de faux espoirs chez les fans, il n'y aura pas de saison 7. Néanmoins, le réalisateur avait prévu ça depuis le départ, ça se finira par un film. Et c'est ça qui est prévu depuis le départ. C'est le film qui va finalement résoudre les
comme
dernières.
Kaamelott.
En quelque sorte, mais qui va résoudre les derniers doutes, les dernières zones d'ombre qui subsistent. Néanmoins, le problème de ça, c'est à double tranchant, parce que on a de telles attentes par rapport à tout ça, qu'on va avoir une attente dingue par rapport au film.
C'est le problème souvent.
On va, je pense, avoir de de grosses attentes, ça va être difficile pour le film, bah voilà, de combler ces attentes de grands fans de la première heure qu'on est tous. Voilà.
Okay, merci beaucoup,
Romain. Idols.
Qui apparaît dans la série, bien sûr, c'est pour ça que tu l'as choisi.
Pablo, tu vas nous parler d'une dernière série ce soir.
Oui. Alors, rapidement, on va parler d'une série qui est devenue un peu un classique, qui s'appelle The Killing. Une série sombre et froide, comme la nuit danoise, mais haletante et originale. The Killing, en danois, Forbrydelsen, littéralement le crime, c'est une série de 2007 à 2012. Une série télévisée danoise en 3 saisons, 40 épisodes, créée par, alors attendez, Søren Sveitrup. Sveitrup, c'est bon, je crois que j'ai réussi. Les deux premières saisons sont actuellement disponibles gratuitement sur Arte Série. Voilà. Le synopsis, alors je vous parle essentiellement là de la saison 3. Parce que je trouve que la saison, enfin comment dire, les saisons montent en puissance. Et j'avais plutôt envie de focaliser là-dessus. Donc, synopsis de la saison 3. L'inspectrice Sarah Lund, interprétée magistralement par Sophie Grebel, s'apprête à fêter ses 25 ans de service au sein de son équipe à Copenhague. Alors qu'elle accueille son nouveau coéquipier Asbjørn Junker, plusieurs manifestations violentes éclatent dans différents quartiers de la ville. Ces troubles sont liés à la crise sociale et politique qui traverse le pays, renforcée par l'approche des élections législatives. Dans ce contexte tendu, le cadavre mutilé d'un homme est retrouvé dans le port. Et très vite, la fille de 9 ans du patron d'une entreprise qui semble liée à l'affaire est kidnappée. La machine médiatique s'emballe et le compte à rebours est lancé. Dans les 3 saisons, l'intrigue paraît simple au départ, mais elle se complexifie ensuite au fil des épisodes. Elle vous perd dans le labyrinthe de fausses pistes ou d'apparences trompeuses. La structure narrative du scénario imbrique en fait la brigade criminelle de Sarah Lund, la famille de la victime et ses proches, et un homme politique en général, ainsi que son équipe. C'est aussi une série originale parce que son héroïne, Sarah Lund, est simple et fragile. Pas du tout présentée comme une fille badass, mais dotée d'un sens de l'observation et de l'intuition phénoménale, d'une intelligence hors pair donc. Elle a toujours un temps d'avance sur ses coéquipiers, notamment sur ses collègues masculins. Elle est efficace, courageuse, voire téméraire, vu qu'elle a tendance à se lancer à la poursuite des criminels dans des caves obscures sans son arme, et d'une loyauté sans faille. En revanche, elle est réservée. C'est une taiseuse, pas vraiment enjouée ni sympathique. Elle a du mal à exprimer ses émotions ou à exprimer les choses qu'elle vit à ses proches, ce qui finit par l'isoler. Mais c'est un limier. Elle ne lâche rien, quitte à se mettre sa hiérarchie à dos, obsédée par l'enquête et la découverte de la vérité. Elle n'est pas la femme potiche ou le faire-valoir d'un agent masculin, comme souvent dans les séries policières. Elle n'est pas la femme séduisante ou drôle de nombreuses séries iconiques. Elle est taciturne, parfois renfermée. Elle est concentrée et surtout brillante. Bon, personnellement, je trouve que la série monte en puissance d'une saison à l'autre, comme je disais. La saison 1 est un peu trop longue. Il y a 20 épisodes, je pense qu'il y en a 5 de trop. Mais les saisons 2 et 3 sont plus équilibrées et rythmées. On s'attache aux personnages de premier plan, mais je trouve que la série néglige un peu les personnages secondaires. Cette série danoise est devenue classique. Elle a été remakée, si on peut dire, par les Américains. D'ailleurs, le remake a un peu moins bien marché. Je signale quand même que dans la première saison, on trouve un magnifique acteur qui s'appelle Lars Mikkelsen. D'accord ? Lars Mikkelsen, vous l'avez vu dans Borgen, ou vous l'avez vu dans la saison 3, épisode 3 de Sherlock.
C'est le frère de Mads Mikkelsen.
Et oui, le frère de Mads Mikkelsen. Il jouait dans Sherlock, Charles Augustus Magnussen, un des pires adversaires de Sherlock. Voilà, donc une série policière qui se veut réaliste. The Killing, donc, une série policière assez classique dans sa forme, mais dont l'originalité tient au croisement incessant entre les jeux dramatiques pour la famille de la victime, les enjeux de pouvoir des politiques et bien sûr les enjeux criminels de la police. Ben voilà, merci de votre écoute. The Killing, 3 saisons.
Merci Pablo. Alors, chers amis, c'est bientôt la fin de cette émission. Malheureusement, ça passe trop vite.
Et ça va trop vite.
Alors, est-ce qu'on pourrait faire un petit récapitulatif de nos 5 séries du soir qu'on vous conseille tous et toutes, bien sûr. Pablo, tes 2 séries, c'était...
Alors, La Servante Écarlate et The Killing.
Romain.
Peaky Blinders, bien sûr. Et puis, Afterlife.
Et voilà, et moi je vous conseille Better Call Saul.
Tout à fait.
Cool. Seb, dans 15 jours, je pense, nous parlera des Anneaux de Pouvoir et de House of the Dragons.
Tout à fait.
J'espère qu'il sera là, on les souhaite tous. Anaïs aussi, peut-être qu'elle viendra faire un tour, elle est la bienvenue.
Oui.
Restez à l'écoute de Radio G. Mais Romain a un petit coucou à faire.
J'ai un petit coucou à faire. Je fais une bise à Tony et à Sophie, alias Prière Païenne, qui se reconnaîtra. Je les embrasse.
Eh bien, gros bisous.
Et bah, c'est super, Prière Païenne.
Tu vois de qui c'est?
Ah non, non, je...
De Céline.
Céline?
Céline Dion.
Ah,
ah,
oula, référence.
Je vous évite de le passer déjà, c'est déjà ça.
Et là, on va se quitter avec Stupéflip. Alors,
Stupéflip.
Parce que Stupéflip, c'est le truc stupéfiant.
Ouais.
C'est un groupe français de rap qui existe depuis le début des années 2000. Je suis un immense fan et ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle Stup Forever.
Okay.
Et on va se quitter en écoutant le titre Vengeance.
Waouh,
excellent.
On pourra faire toute une émission là-dessus. J'en avais fait une il y a longtemps, mais on pourra en reparler.
Eh bah,
si
why not.
Vous voulez. Quand on parlera de musique, par exemple, ouais, on parlera de nos groupes préférés, nos artistes.
Nos serpents de mer, les groupes qu'on a suivis,
voilà,
qui nous ont suivis.
Alain Souchon, Radiohead.
Tout à fait.
Tout à fait.
C'est ça.
Allez, restez à l'écoute de Radio G. On se dit à dans 15 jours.
À dans 15 jours. Ciao,
salut.
Ciao.
Salut.
Bye bye.
Se passe quelque chose là. Je suis le stup messager, l'oiseau quadricéphale, le super champignon qui pénètre ton encéphale. Je suis gardien du précipice, on ne sait pas ce qui s'y passe. J'infiltre ton espace sans sortir de ma carapace. Je suis l'énigme, le fou, la seule échappatoire, un ultime rempart aux catastrophes prémonitoires. Je suis le padré, le doc, le pacificateur. Je protège ma petite sœur, combatte la peur. Je suis pour, y a pas d'erreur, le stup tue. Sors les antibiotiques, je suis avec précaution et à dose homéopathique. Je suis le fils de Kraou, je reviens du royaume des onze. Ce que t'aimes pas chez les autres, c'est ta propre pardon. Pas ce qui me tue, c'est le fléau.